Bonsoir, bienvenue à Genève. Ici à Unimail se joue l'élection à l'exécutif de la ville. C'est un nouveau dimanche test pour les partis politiques en cette année d'élection fédérale. La droite échoue, selon les premières projections, à reprendre la majorité de gauche. Ici en ville de Genève, c'était un échec annoncé. Il faudra en tirer tous les enseignements. On va le faire ce soir. Genève était le laboratoire d'une forme d'alliance avec l'UDC, tentée en vain, semble-t-il, par les libéraux. On va voir les influences que ça pourra avoir sur la fusion libérale radicale à Genève, en Suisse aussi. Genève, laboratoire également du mouvement populiste, en particulier le MCG. On verra les résultats tout au cours de cette émission de forum avec Sylvie Belzer qui nous rejoint dès que les résultats tombent. Ça tombe bien, ils tombent pendant l'heure. On les suivra minute après minute. Et puis on débattra à partir de 18h30-35 des enseignements pour la Suisse de ce qui s'est passé aujourd'hui à Genève. Nous aurons le radical Pierre Maudet, c'était l'homme en danger de cette élection. Nous aurons les vainqueurs, les vaincus, le président libéral genevois Cyril Hélène, l'artisan de cette alliance avec l'UDC. On va voir quels enseignements ils tirent ce soir après ces premières projections. Et puis nous aurons aussi le président suisse du Parti libéral radical, Fulvio Pelli. Fulvio Pelli qui est d'ailleurs sommé aujourd'hui par le PDC Urs Schweller de choisir entre l'UDC et le centre droit. Le vote d'aujourd'hui à Genève lui aura peut-être donné un élément de réponse. Nous aurons la réponse de Fulvio Pelli vers 18h30. Dans l'actualité du jour, Nathalie Ducommun recevra notre collègue de la RTS, Christophe Serre. Nous le recevrons d'ici quelques instants. Il a été retenu 13 jours au Qatar avec son caméraman lors d'un reportage de la RTS. Une mésaventure qui jette une ombre sur ce régime du Qatar qui prétend organiser la Coupe du Monde de football, qui pose en modèle des pays arabes. C'est le pays qui produit notamment la chaîne Al Jazeera. On aura le témoignage de Christophe Serre et puis l'analyse du professeur Yves Besson dans quelques minutes. On l'appelle Otto le soldeur, du nom de son entreprise. Il n'aime rien tant que de secouer son parti, le parti libéral radical. Otto Inaichen est notre invité. Il veut pousser la droite et la gauche à s'entendre pour sortir du nucléaire. Et il a la furieuse tendance à réussir tout ce qu'il entreprend. Otto Inaichen, il est en direct avec nous sur le coup des 18h15. Nous aurons le journal des sports également de Romain Rosang qui reviendra notamment sur la victoire en football de Neuchâtel-Xamax face à Lucerne sur le score de 2-1. La semaine s'annonce ensoleillée et chaude de 19 à 22 degrés demain jusqu'à 24 degrés en pleine d'ici la fin de la semaine. La météo de Stéphanie Collère, c'est à la fin de ce forum.
Forum, Nathalie Ducommun, Philippe Reva.
Sylvie Belzer, vous nous avez rejoint ici à Unimail où nous sommes en direct pour un forum spécial, ces élections genevoises en ce dimanche, ce beau dimanche. On préférerait être dehors, mais enfin, journée importante aujourd'hui à Genève, Sylvie Belzer, avec ces élections dans les communes genevoises et notamment, surtout, ce qui nous intéresse, c'est la ville de Genève.
Oui, pour la ville de Genève, ça vient tout juste de tomber. C'est pas définitif, hein, on le rappelle. C'est 6 locaux en ville de Genève dépouillés sur 16. Donc, des projections à prendre avec des pincettes sur l'ensemble des résultats. Et selon ces projections, l'ordre d'élection est le suivant pour l'instant. En 1, Samy Canaan, socialiste. En 2, Sandrine Salerno, socialiste également. En 3, Rémi Pagani, ensemble à gauche. En 4, Esther Alder, verte. Et en 5, Pierre Maudet, radical. Pierre Maudet qui flirte un petit peu avec le quorum des 33%, mais le fait que certains locaux qui votent traditionnellement à droite en ville de Genève ne soient pas encore dépouillés va certainement jouer en sa faveur. Donc toujours selon ces projections, on voit que la gauche élargie qui est la haute main sur la ville de Genève depuis des années conserve son avantage. La majorité va pas basculer durant cette législature. Pour les viennent ensuite, il y a en 6e position, Florence Kraft-Babel, libérale. 7e, Michel Chevrolet, PDC. 8e, Carlos Medeiros, MCG. 9e, Soli Pardo, MCG. Et 10e et dernier de la liste, Eric Bertina, UDC. Donc si on regarde l'ordre des viennent ensuite, on voit que la stratégie des libéraux qui ont fait alliance avec l'UDC pour l'occasion n'a pas été franchement couronnée de succès. Pour l'instant, non seulement Florence Kraft-Babel se retrouve derrière Pierre Maudet, alors que mathématiquement elle avait l'avantage, mais en plus Éric Bertina, candidat UDC, est le dernier élu. Une stratégie voulue par les libéraux mais qui déplaisait au PDC à bon nombre de radicaux. Pire, cette alliance n'a visiblement même pas convaincu l'UDC. Faute d'alliance, les candidats MCG, eux, on l'a entendu, se retrouvent assez loin derrière. Ils resteront une force considérable au municipal, mais ne franchissent pas la barre de l'exécutif comme on s'y attendait, ce qui ne sera pas forcément le cas dans d'autres communes genevoises.
Sylvie Belzer, merci. Puis vous revenez d'ici quelques minutes pour nous annoncer les nouveaux résultats, si quelque chose se précise. Mais on a une vue qui semble déjà assez orientée. On s'y attendait un peu. Cyril Hélène, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président des libéraux genevois.
Oui.
On entendait Sylvie Belzer nous dire, Pierre Maudet qui flirte avec le quorum. C'est jamais arrivé en ville de Genève. hein, qu'il n'y ait pas de majorité au premier tour, qu'on ne passe pas au premier tour l'exécutif. C'est un peu de votre faute ce qui lui arrive à Pierre Model, hein, non ?
Non, absolument pas, puisque contrairement à ce qui est dit, il n'y a pas eu d'alliance entre les libéraux et l'UDC, mais c'est les UDC qui ont soutenu la seule candidate libérale. Donc Pierre Model n'a pas eu d'inconvénient, il a éventuellement échappé à un avantage qu'il a lui-même refusé, mais vous aurez constaté que c'est un magistrat brillant et c'est pour cela qu'il fait une élection tout à fait honorable compte tenu...
Malgré vous ?
Non, pas malgré moi. Moi, j'ai jamais été contre Pierre Maudet, qui est bientôt dans mon parti et qui, au demeurant, est sur la même liste que je défends et que je défends toujours. J'aurais voulu avoir plus de voix pour Pierre Maudet avec l'UDC, mais les instances dirigeantes du Parti radical n'ont pas voulu une grande alliance.
Pour clarifier, votre candidate libérale, Florence Craft-Babel, était sur la liste UDC avec Éric Bertinal. Alors, on peut appeler ça alliance ou mariage ou fusion ou autre chose encore. Disons, c'est une amitié, en tous les cas, assez rapprochée. Cyril Hélène.
Je ne le conteste pas, mais...
Sur ce résultat assez mauvais aujourd'hui, vous revenez en arrière sur vos idées de rapprochement avec l'UDC ?
Mais non, absolument pas. D'ailleurs, les résultats que vous nous donnez sont inquiétants. Un magistrat extrêmement brillant, qui est un travailleur, dynamique, arrive à peine à faire le quorum parce que précisément toute la droite est divisée. Nous ne pouvons plus continuer ainsi et l'élection de Pierre Baudet, qui va être tout à fait sur une marge infime, est la démonstration que même quand on a un candidat de la qualité de Pierre Baudet, on n'est même plus capable de réunir le quorum.
Mais Cyril Hélène, revenons à cette alliance, appelons à l'alliance si vous voulez bien avec l'UDC, ça ne fonctionne pas manifestement. L'UDC n'y gagne rien, votre candidate n'y gagne rien. Or, à l'Assemblée de votre parti, vous disiez c'est l'avenir, hein, il faudra à l'avenir qu'on aille dans cette direction-là. Vous maintenez toujours ce cap ?
Ah mais plus que jamais, parce qu'effectivement, l'UDC est dernier parce qu'il n'a reçu le soutien d'aucun des partis de l'entente, pas même des libéraux, puisqu'il n'y avait pas d'alliance au sens strict. Et effectivement, si nous voulons gagner et faire plus que les 33%, il faudra que nous soyons unis derrière des projets communs, mais unis à quatre. Avec l'UDC et avec le PDC, pas seulement avec l'entente de côté, plus un strapontin qui nous a été offert généreusement par l'UDC.
Mais vous vous rendez compte, Cyril Hélène, année très importante, année électorale. En même temps, il y a la fusion libérale radicale. Avec cette épousaille avec l'UDC, cette tentative d'alliance, vous risquez d'abandonner les radicaux en route. C'est très dangereux, le jeu, là.
Mais je crois pas. Je crois que, vous savez, j'ai reçu beaucoup de messages de radicaux qui me disent qu'ils sont prêts à faire une alliance plus large, parce que eux, comme nous, on en marre de perdre en ville de Genève.
Manifestement, ça n'a rien changé cette fois-ci.
Non, mais cette fois, parce qu'il n'y a pas eu de vraie alliance, je le répète, je suis désolé, mais il n'y a pas eu de vraie alliance, puisqu'il y a eu l'entente, trois partis, plus un soutien de l'UDC, mais les trois partis de l'entente n'ont pas soutenu l'UDC, et le PDC et les radicaux n'ont pas voulu du soutien de l'UDC. Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit d'une alliance tout à fait biscornue.
Cyril Hélène, vous êtes en direct avec nous ici à Unimail. Samy Canahan nous a rejoint. Bonsoir Samy Canahan.
Bonsoir.
Je peux vous dire félicitations déjà.
Oui, en tout cas pour les sièges, l'ordre n'est pas définitif, mais en tout cas il semblerait que l'alternative ait réussi son pari de maintenir les quatre sièges à l'exécutif de la ville de Genève, et c'est réjouissant.
Et vous en particulier, vous faites un score assez étonnant, en tout cas d'après les premières projections, il faudra voir si ça évolue. Vous êtes premier de classe, hein, vous êtes premier de tout parti confondu, et même devant Sandrine Salerno, vous êtes socialiste tous deux. Ça vous étonne ça ?
Écoutez, les résultats ne sont vraiment pas définitifs. La preuve, c'est que Sandrine Salerno est passée de la 4e à la 2e place dans les décomptes plus avancés. Donc il te fait croire que ça change encore. Ça veut surtout dire que les deux socialistes sont en tête à ce stade. C'est la reconnaissance à la fois du travail effectué et de la qualité de nos candidatures.
Ça, c'est facile de faire la politique quand on est socialiste en ville de Genève, Samy Canahan. Vous étiez haut fonctionnaire, vous succédez en quelque sorte à votre chef, Manuel Tornard. C'est presque des nominations, c'est plus des élections, ça se passe comme ça tranquillement.
Oh non, on a bien vu que la bataille électorale n'était pas évidente. On nous a contesté ce deuxième siège de toutes parts, la légitimité. J'étais conseiller municipal et député avant d'être haut fonctionnaire tout de même, donc il y a un passé politique. Et puis aujourd'hui, je ne crois pas que les choses étaient évidentes. Donc c'est clair que les divisions de la droite nous ont aidés. Ça, c'est un facteur objectif qu'il faut reconnaître. Mais aussi, quand même, on voit le peuple de la ville de Genève fait confiance tout de même à l'alternative depuis 20 ans.
Vous êtes premier de liste, en tout cas pour l'instant, premier des candidats. Ça veut dire que vous pouvez un peu mettre vos exigences sur la table, demander à un département, la culture par exemple ?
Je crois que c'est une affaire de discussion entre les élus.
Ça, c'est la réponse habituelle.
Non, mais c'est réel. C'est-à-dire qu'on a vu il y a 4 ans que ça peut se mal passer. Manuel Tornard avait été à la fois le plus ancien, le mieux élu, et puis ça s'est pas bien passé. Cette fois-ci, je crois que l'alternative avant tout, qui assume sa responsabilité de majorité, fera tout pour que ça se passe bien et qu'on trouve la meilleure formule. Sincèrement, je suis quelqu'un de polyvalent. La culture me passionnerait, mais j'ai aussi une grande expérience des affaires sociales. Donc, je suis vraiment ouvert à la discussion. Les socialistes ont évidemment un attachement particulier à la question sociale, surtout dans le contexte actuel.
Oui, heureusement, pour les socialistes.
Ah, justement, c'est un peu notre.
Cyril Hélène vous écoute très attentivement. C'est le président du Parti libéral. Vous avez une recette pour la droite pour gagner dans les villes, parce qu'en Suisse, il n'y arrive plus manifestement.
Alors, il n'y a pas de recette, il y a beaucoup de travail, mais ce qui est sûr, c'est que, et ça c'est à Genève comme ailleurs, c'est vrai que la gauche en général est majoritaire en ville. Je crois qu'elle a mieux compris les enjeux urbains, et pas seulement pour les, je dirais, les gens défavorisés, mais aussi pour une partie de la classe moyenne. L'enjeu du logement, l'enjeu de la qualité de vie urbaine, de la circulation réformée.
Et
je crois sincèrement, non pas bobo, parce que justement on trouve un équilibre où tout le monde trouve sa place. C'est une politique inclusive et pas exclusive, où tout le monde trouve sa place. Quel que soit le revenu, quel que soit aussi le mode de vie, et c'est vrai que c'est beaucoup de travail d'arbitrage, et ça il faut effectivement s'y employer sur tous les fronts.
Cyril Hélène, il faut peut-être abandonner les petits commerçants, les gens qui ont une voiture, le combat contre les zones piétonnes, devenir plus urbain.
Mais les propos de Sami Kanaan sont tout à fait exacts. Je crois que la gauche en ville de Genève, en tout cas, puisque c'est de cela que je connais un petit peu, est unie sur des projets communs qui plaisent ou qui plaisent pas. Elle plaise à une majorité aujourd'hui, une toute petite majorité puisqu'ils n'ont juste pas la majorité en ville de Genève, mais au moins ils savent s'unir sur des projets communs. Et à droite, on ne sait plus s'unir et du coup, on n'a même plus de projets communs parce que certains d'entre nous ne veulent même plus discuter avec les autres partenaires. C'est un petit peu difficile, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'entente n'a plus que 26% des voix à l'occasion des élections municipales. Moi, à titre personnel, je pense deux choses. À la fois qu'il ne faut pas s'en accommoder et que deux, notre électorat est plus large que celui-ci.
Cyril Hélène, vous, le libéral, l'homme de l'alliance avec l'UDC, vous avez un gilet pare-balles pour passer la nuit ici à Genève avec les amis de l'entente qui sont tous ici à vous écouter, à vous regarder.
Mais non, parce que j'ai beaucoup de félicitations, parce que je dis tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu un petit mouvement qui est initié sur des discussions plus larges qui iront de l'UDC aux Verts libéraux. Mais c'est avec l'ensemble du centre-droit qu'il faut discuter.
Vous y croyez toujours, Cyril Hélène. Bah, c'est tout à
plus
votre honneur, manifestement. Je vous remercie beaucoup, Cyril Hélène, président des libéraux genevois. Et puis Sami Kanaan, on renouvelle nos félicitations.
Merci beaucoup.
Nouveau conseiller administratif socialiste de la ville de Genève. On va revenir à 18h35 sur ce qui s'est passé aujourd'hui à Genève pour tenter d'en tirer des enseignements nationaux. On est en allée d'élections fédérales. On aura notamment le président du Parti libéral radical suisse, Fulvio Pelli. Nous aurons Pierre Maudet, Florence Kraft-Babel, la libérale qui a échoué aujourd'hui. Nous aurons peut-être Christian Lucher s'il passe par là, parce que son élection aussi en partie se jouait peut-être aujourd'hui pour cet automne. Ce sera vers 18h30. Mais d'ici là, nous recevons Christophe Serre. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes notre collègue de la radio-télévision suisse, côté télévision plutôt, journaliste au sport, à la rédaction des sports. Vous êtes de retour du Qatar. Vous étiez en reportage au Qatar, Christophe Serre. Et vous avez été retenu 13 jours avec votre caméraman, Yvan Thorimbert. Racontez-nous ce qui s'est passé.
Alors effectivement, on était parti il y a 3 semaines pour découvrir le Qatar, qui va organiser la Coupe du Monde de football en 2022. L'idée, c'était de voir si dans ce pays, le football existait déjà, de voir comment, d'imaginer comment allait se dérouler la Coupe du Monde dans 11 ans. Et puis on s'est dit, on veut aussi montrer un peu à nos téléspectateurs comment est le Qatar, comment est le pays, ce qu'on peut y découvrir. Alors on avait pris contact avec l'ambassade du Qatar en Suisse qui nous avait dit qu'il n'y avait aucun problème, qu'on pouvait filmer tout ce qu'on voulait dans le pays. Et puis le dernier jour, on s'est baladé, on a voulu filmer des paysages, des dunes, des dromadaires, et puis on s'est retrouvé au bord de l'autoroute à filmer également les voitures qui passaient. Et puis dans cette région-là, il y avait des raffineries, et subitement, une patrouille de police est arrivée, nous a demandé ce qu'on faisait là, si on avait une autorisation. On n'a pas vraiment eu le temps de répondre. On s'est retrouvé au poste, menotté, sans nos passeports, avec des gens qui nous posaient plein de questions, mais qui n'attendaient pas vraiment nos réponses.
13 jours, ça a duré. Vous avez eu peur ?
Alors on a eu peur le premier jour effectivement, parce que durant une dizaine d'heures on s'est retrouvé en cellule, on ne nous expliquait pas vraiment ce qui se passait, on nous refusait tout téléphone, on nous a donné ni à manger ni à boire, donc c'était un peu particulier. Donc oui, durant ces 10 heures là on a quand même eu un petit peu peur. Ensuite on nous a relâché, on nous a même rendu notre passeport, mais on nous a dit on garde votre matériel, caméra et tout ce qui va avec, et on vous le rendra dans 2 jours, et ensuite vous pourrez rentrer en Suisse. Et ensuite, 2 jours plus tard, on nous a dit « Ah, finalement, revenez dans 2 jours, et puis revenez demain. » Et ainsi de suite, on s'est fait balader d'une administration à l'autre sans avoir vraiment de détails sur ce qui se passait et sur ce qu'on nous reprochait.
Vous avez eu l'aide du département fédéral des affaires étrangères. La Suisse est intervenue pour ça ?
Alors, la Suisse est intervenue après quelques jours seulement. Une des difficultés, c'est déjà que la Suisse n'est pas représentée au Qatar. L'ambassade pour cette région est à Kuwait City, pour le Qatar, le Bahreïn et le Koweït. Donc, ça a un peu retardé les choses. Et puis là aussi, les démarches ont été très lentes. À chaque fois, il fallait tout répéter à plusieurs reprises, tout très traduire en arabe. Sinon, il n'y avait pas de réponse lorsque l'on s'exprimait en anglais. Donc là aussi, ça a pris du temps. Mais au final, visiblement, on a eu de la chance parce que quand on nous a rendu nos affaires il y a 2 jours, on nous a dit « Vous avez beaucoup de chance parce que normalement, ça prend 1 mois. Et là, après 2 semaines, vous pouvez rentrer chez vous. »
Et vous ne faisiez rien d'autre que de filmer des paysages, c'est ça ?
Oui, alors il y avait effectivement en toile de fond des raffineries qui peuvent peut-être être considérées comme des cibles ou une zone sensible. Toujours est-il que les policiers nous ont dit « Vous n'avez rien fait de grave. Là où vous étiez pour filmer, c'était autorisé. Sur vos images, on les a regardées. Il n'y a rien de grave, mais on voulait juste vérifier. » Et puis au Qatar, on nous l'a dit souvent, le temps est élastique. Alors ça a pris un peu plus de temps que ça n'en aurait pris ici, sans doute.
Christophe Serre, notre collègue de la RTS pour les sports. La Coupe du Monde de football 2022 au Qatar, c'est une mauvaise augure pour le moins. Hein.
Alors il reste du temps jusque-là. C'est vrai que le Qatar se profile sur la scène internationale en sport, avec beaucoup de manifestations, mais aussi en politique. On a vu le rôle du Qatar dans la crise libyenne. Mais là, effectivement, il y aura des progrès à faire. D'ailleurs, un des policiers nous a dit, en nous rendant nos affaires, pour la Coupe du Monde, d'ici à la Coupe du Monde, on devra s'habituer parce qu'il y aura sans doute beaucoup plus de caméras que la vôtre. Alors j'espère que cette bonne augure, on a peut-être un peu essuyé les plâtres pour les autres.
Christophe Serre, vous étiez en direct avec nous ici. On a peut-être entendu l'ambiance sonore. On est au centre électoral du canton et de la ville de Genève pour cette journée électorale. Je vous remercie de votre témoignage, Christophe Serre. Et puis Nathalie Ducommun, ce que vient de nous raconter Christophe Serre, ça pose pas mal de questions sur le régime qatari.
Oui, en effet, Philippe. Des questions qu'on va soumettre à un spécialiste. Yves Besson, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes ancien diplomate, Yves Besson. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, professeur à l'Université de Fribourg. Vous venez d'entendre avec nous ce témoignage assez inquiétant. Évidemment, on pourrait penser que c'est un couac. On pourrait aussi se dire qu'à l'heure actuelle, une telle mésaventure est significative d'un contexte politique où, pour le moins, la liberté d'expression ne prévaut pas vraiment.
Alors, je crois que vous avez raison. Et puis, il a employé une bonne expression, c'est « essuyer les plâtres ». Je pense que c'est le cas. Ils ont probablement essuyé les plâtres, comme il l'a dit. Mais il faut dire qu'il y a dans le Golfe, en ce moment, une très grande nervosité. Finalement, Qatar, c'est à quelques kilomètres de Bahreïn. Et vous savez ce qui se passe là-bas, à Bahreïn. Et
il a des soulèvements.
Oui, et il l'a dit lui-même. C'est quand ils ont filmé ce qui... l'a décrit comme une raffinerie. Il faut dire que le Qatar est le premier producteur de gaz liquéfié au monde et qu'ils ont des installations qui font leur richesse d'ailleurs et qui doivent être considérées comme c'est d'habitude au Moyen-Orient, comme zone militaire et que probablement on n'a pas le droit de photographier ça, même si le policier a dit vous aviez pas filmé quoi que ce soit de grave, enfin, ou d'important. Mais je crois qu'il y a, c'est explicable parce qu'il y a une très grande nervosité. Maintenant, la liberté d'expression, vous savez, le Qatar, c'est une famille plus qu'un pays.
C'est un confetti sur la carte, on dit souvent.
Exactement. Et en plus, la moitié de la population est d'obédience sunnite et wahhabite, c'est-à-dire qu'ils sont cousins des Saoudiens. Et que de l'islam saoudien, et qu'ils ont là probablement de gros progrès à faire en matière de liberté d'information. Oui.
Alors pour poursuivre un petit peu sur ce diagnostic, Yves Besson, avant d'en venir aux possibles évolutions d'ici 2022, organisation de la Coupe du Monde, on peut s'interroger aussi sur cette position qu'a pris le Qatar dans ce conflit libyen qu'évoquait justement Christophe Serf. Est-ce que là, on peut analyser cette prise de position du Qatar comme une volonté de se montrer fréquentable sur la scène internationale ?
Le Qatar, avec la chaîne de télévision
Al Jazeera,
auquel le journaliste en question a fait allusion, ennuie passablement de monde depuis des années et des années, jusqu'à Washington, n'est-ce pas ? Al Jazeera est une chaîne qui est connue pour sa liberté et la qualité de son information, soit bien que les programmes en anglais soient très différents des programmes en arabe. Mais Al Jazeera est regardée dans tout le monde arabe depuis des années et ils sont partout et ils donnent une information qui est très libre. Et donc, Al Jazeera est sans doute à l'origine lointaine, mais à l'origine quand même de tout ce qui se passe dans le monde arabe aujourd'hui. Avec d'autres, il y a d'autres facteurs, bien sûr. Mais là, le Qatar a pris des positions sur le plan international, a fait des investissements, procède à des investissements dans le monde entier, se profile, disons d'une façon qui ne correspond pas à sa taille. Maintenant, est-ce que il y aura un point de rupture où le Qatar en aura fait trop ? Ça aussi, c'est là que je verrai un certain danger.
Oui, et puis il faut s'interroger peut-être sur la culture qui n'a jamais ou qui n'existe en tous les cas pas à présent, une culture de justement liberté d'expression. Cette culture-là, il faudra qu'elle change, peu importe les positions que prend le Qatar sur la scène internationale ou comment elle se positionne vis-à-vis de ses voisins. Quand elle accueillera la Coupe du Monde, il faudra bien qu'elle se mette à une espèce de culture occidentale, non ? Ça, on peut espérer que ça marche ?
Oui. Sur le plan extérieur, avec Al Jazeera et ses centres de presse, n'est-ce pas, ils ont même un bureau à Genève, enfin, ils sont partout. Et sur ce plan-là, ils sont d'une très grande liberté.
Oui, mais chez eux, pas.
Mais sur le plan intérieur, oui. La population d'origine qatari elle-même est minuscule, n'est-ce pas, par rapport à, ils sont minoritaires pratiquement dans leur propre pays. Et à partir du moment où, depuis des décennies, socialement, les autorités qataries et l'émir lui-même ou la famille ont fait d'énormes progrès sociaux. La médecine est gratuite, les soins sont gratuits, l'écolage est gratuit, enfin. Et là, cette population qatari d'origine est extrêmement bien traitée. Et la liberté d'information ou la liberté d'expression viendrait par surcroît, ce serait très bien. Mais ça, c'est difficile de juger dans quelle mesure. Mais il n'y a pas de récrimination sociale au Qatar, sauf évidemment la main-d'œuvre étrangère qui, elle, comme dans tous les autres pays du Golfe, est traitée d'une façon qui est souvent détestable.
Oui, c'est un pays tout à fait étonnant que le Qatar, et puis on va pouvoir le découvrir en tous les cas jusqu'à 2022. Peut-être pour conclure, Yves Besson, un mot tout de même sur la FIFA, sur Sepp Blatter qui a choisi très clairement d'organiser une Coupe du Monde au Qatar. On sait que c'est pas pour la culture footballistique qui y règne, elle est quasi inexistante. On sait que c'est pas pour la liberté de son régime, pour l'argent certainement, peut-être aussi pour des raisons internes.
Oui, parce que ça profile le pays, n'est-ce pas ?
Interne à la FIFA.
Toute occasion est bonne à profiler l'émirat sur la scène internationale, sur le plan culturel, sur le plan universitaire, sur le plan académique, sur le plan du sport, sur le plan, n'est-ce pas ? Tout est bon. Et à partir d'un certain seuil, peut-être, il y aura un pas de trop, peut-être. Moi, je n'y crois pas à la Coupe du Monde au Qatar. Mais à partir, vous voyez.
Vous n'y croyez pas, mais elle aura lieu.
Je suis pas sûr. Ah. Tout s'achète.
Tout s'achète. Mais oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Yves Besson ? Un voisin plus riche pourrait se l'approprier ?
Non, pas ça du tout. Non. Je dis le principal rival de Sepp Blatter, apparemment, pour sa réélection à la tête de la FIFA, c'est un Qatari, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Donc oui. Effectivement, ce qu'on laissait entendre, des raisons internes à la FIFA qui placent le Qatar en première position, pole position, pour
oui,
prendre une métaphore d'un autre sport. Yves Besson, voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir analysé cette situation suite au témoignage de notre collègue de la TSR. Ils ont été assignés à résidence, on le rappelle, pendant 13 jours au Qatar. Oui. Bonne soirée, Yves Besson.
Bonne soirée.
Une grande alliance transpartie sur l'énergie, c'est ce qui se profile, une grande alliance grâce à un paquet de 13 mesures concrètes financées par un fonds d'1 milliard de francs. Alors, la presse dominicale fait écho aujourd'hui à ce projet qui regroupe donc des parlementaires issus de tous les partis, mais qui est avant tout l'œuvre du bien connu conseiller national libéral radical, Otto Inaïchen. On va le recevoir dans un instant. Mais avant, on vous rejoint, Christian Favre, en direct de notre studio du Palais fédéral, pour analyser en quelque sorte cette surenchère de propositions en matière de politique énergétique. Alors, l'initiative d'aujourd'hui montre au fond que cette chute électorale dont on parle beaucoup des partis traditionnels est en train de pousser, paradoxalement comme jamais auparavant, la Suisse vers la sortie de l'atome.
Oui, depuis l'accident nucléaire de Fukushima, rien ne va plus pour le Parti libéral radical et pour le Parti démocrate chrétien. Sur le plan cantonal, on l'a vu à Zurich, à Lucerne, au Tessin, ils collectionnent les défaites électorales, talonnées par des verts libéraux en pleine euphorie. C'est avant tout sur le terrain énergétique que le PLR et le PDC se manifestent aujourd'hui pour tenter de sortir la tête de l'eau. Et ces dernières semaines, plus ces deux partis se sont enfoncés, plus ils se sont montrés ambitieux dans leurs objectifs pour sortir la Suisse du nucléaire, en particulier le PDC, désormais acquis à l'idée que la construction de toute nouvelle centrale n'est pas souhaitable. Bien sûr, écologistes, socialistes sont incontestablement les forces leaders sur ce dossier, mais sans majorité au Parlement, eh bien leurs efforts sont vains. Et c'est bel et bien aujourd'hui, grâce au sérieux coup de verre, si on peut dire, que s'imposent PDC et PLR, qu'une politique concrète sur les renouvelables est en train de se mettre sur pied.
Concret, vous évoquez du concret, Christian Favre. Le dernier exemple en date, c'est justement cette alliance pour l'énergie.
En effet, on va en parler à l'instant, vous l'avez dit, avec son fondateur, le conseiller national PLR Otto Inaichen. Il demande que la Confédération, avec les exploitants de centrales nucléaires, eh bien, mette sur pied un fonds d'1 milliard de francs pour financer des projets. On retient par exemple le renouvellement des éclairages publics ou encore le remplacement total des 230 000 chauffages électriques de Suisse. Et même si une très nette majorité de l'UDC ne la soutient pas, cette alliance et les projets qu'elle veut lancer devraient obtenir un très large appui sous la coupole. Et puis, autre exemple qui illustre comment le centre droit pourrait faire basculer la Suisse hors de l'atome, la prise de position ce matin dans la presse dominicale du très influent lobby des entreprises Économie Suisse, très lié au PLR, qui désormais soutient la construction de 3 centrales à gaz pour pallier la fermeture éventuelle des réacteurs de Mühleberg et de Besnau.
Et dans ces conditions, Christian, finalement, seul l'UDC reste en retrait ici.
Oui, même sans parler de la gauche et des Verts libéraux, dont les positions sont claires sur ce sujet, tous les partis du centre droit ont désormais pris des engagements. Cela annonce des débats passionnants pour le mois de juin et la session spéciale qui s'annonce sur l'énergie. La position de l'UDC sera très intéressante à suivre. Ce thème, l'énergie, va donc figurer en tête des préoccupations des partis pour les fédérales. Reste à savoir dans quelle mesure ces questions vont mobiliser au sein de la population et peser véritablement sur ces élections.
Christian Favre, en direct de notre studio du Palais fédéral. Jean, merci. Bonsoir, Otto Inaichen.
Bonsoir, madame.
Merci d'être avec nous en direct dans Forum. Franchement, Otto Inaichen, il aura fallu pratiquement toucher le fond à Zurich, à Lucerne, au Tessin, pour que le PLR se réveille. Et puis sans Fukushima, on vous aurait jamais vu aussi enthousiaste et mobiliser autant de force pour sortir du nucléaire, non?
Non, je ne crois pas. Nous savons, c'est notre faute que nous avons perdu. Et j'ai toujours essayé de trouver des solutions entre les partis. C'est ça, pour moi, la crédibilité des partis, de tous les partis, le plus important.
Mais c'est votre image de marque, ça, Otto Inaichen.
Oui, c'est mon image de marque. Et je suis absolument convaincu que ce que nous avons pu atteindre ces 5 derniers jours à Berne, c'est vraiment fantastique. Les partis ont été prêts de faire des compromis, et ça c'est un petit miracle. Je suis absolument convaincu que nous avons une très grande chance que ça va jouer en juin. C'est surtout aussi un travail que nous avons fait pour le Conseil fédéral qui va présenter un programme.
Otto Inaichen, en présentant cette alliance, vous n'allez pas de main morte avec les présidents de parti. D'ailleurs, vous nous rappelez à l'instant que si vous avez perdu le PLR à Zurich, à Lucerne, au Tessin, c'est de votre faute. Les présidents de parti, vous leur mettez clairement la pression, vous le dites, ils sont trop occupés par les fédérales, ils empêchent les compromis, ils polarisent, ils vous embêtent, ils mettent les bâtons dans les roues.
Non, ça je crois pas. Vous savez, je n'aimerais pas être président d'une partie. C'est vraiment chop que
surtout en ce moment, Otto Inaichen.
C'est un job très difficile. Et je trouve, pour moi, c'est la crédibilité pour tous les politiciens qui est absolument nécessaire, parce que le problème le plus grand que nous avons en Suisse maintenant, nous pouvons trouver des solutions seulement si tout le monde fait des compromis entre les partis. Et je crois que nous avons trouvé un compromis qui est pour tout le monde acceptable. Et ça, c'est ça que j'aimerais, où j'aimerais arriver. Et je crois que c'est d'ailleurs aussi le problème que nous avons, c'est la crédibilité chez le peuple. Et là, nous gagnons la crédibilité, tout le monde, et c'est ça qui est le plus important. Il faut soluer les problèmes.
Oui, montrer qu'il faut bâtir des ponts, comme disait l'un de vos conseillers fédéraux, pour réussir en politique. Alors, une alliance à 1 milliard de francs pour sortir du nucléaire. La gauche va suivre, ça paraît clair. Du côté de votre parti, est-ce que vous avez toutes les garanties que le PLR va vous suivre?
Elle va aussi suivre, parce que j'ai toujours des bons signes de l'industrie électrique qu'ils ont prêts de mettre aussi leur part. Parce que vous savez, c'est la seule possibilité de trouver des solutions.
Et l'UDC, par contre, vous dit non. Vous êtes déçu ou fallait s'y attendre?
Il y a quelques bons signes de l'UDC.
Jean-François Harim ne vous suit pas, par exemple.
Oh, je suis pas tellement sûr. Attendez quelques jours, parce que c'était quand même Tiziani, le conseiller des États qui a clairement dit c'est la chanson, c'est de l'UDC, et il est absolument convaincu que beaucoup de l'UDC vont changer encore leur
rêve. Ah, mais comment vous allez vous y prendre? Vous avez l'air bien confiant, Auto Nation. Vous avez quelque chose à leur vendre en retour si l'UDC vous suit? Qu'est-ce que vous insinuez?
Vous savez, pour moi, nous sommes là pour résoudre les problèmes que nous avons. Le problème nucléaire, c'est le plus grand problème que la Suisse a. Et avec ça, il faut commencer déjà demain. Et j'ai déjà commencé dans mon compte avec un très grand succès.
Tony Hachen, vous savez que les jeunes libéraux radicaux hier se sont réunis et puis surtout la frange alémanique dit non, on ne veut pas de subvention des énergies renouvelables. Alors je ne vais pas vous demander de commenter trop largement, trop en détail cette prise de position, mais c'est tout de même étonnant que ce soit un homme de votre génération et un expérimenté de la politique qui lance ce genre d'alliance verte au fond, plutôt que votre jeune génération. Ça vous déçoit que les jeunes libéraux radicaux vous suivent pas en fond?
Je suis convaincu qu'ils vont me suivre. C'était toujours dans le passé, c'était toujours la même chose. Quand j'avais pris des initiatives, ça durait 3 ou 4 mois, ils m'ont suivi. Je suis absolument convaincu, c'est notre chance d'ailleurs. Et surtout si vous prenez les jeunes libéraux qui étaient hier à Lenzburg, ils me suivent.
Ils vous suivent, tout le monde vous suit, Auto Nation. Le succès de la politique d'Auto Nation. Une fois, on verra quand même en juin, Auto Nation, si tout ça se concrétise, votre alliance transpartie. Je vous remercie d'être venu ce soir dans Forum. Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci bien, madame. Bonsoir, madame.
Infotrafic RSR.
Un bouchon causé par un accident est toujours signalé sur l'A9 Vevey-Martigny entre Saint-Trifon et B en direction du Valais. Et cette information qui nous provient de Neuchâtel, le vice-président de l'UDC suisse, Yvan Perrin, ne pourra pas préparer, comme il le souhaite, les élections fédérales d'octobre prochain. Vous savez qu'il est inspecteur à la police judiciaire cantonale de Neuchâtel. Il avait sollicité un congé sabbatique et ce congé lui a été refusé par le Conseil d'État neuchâtelois dans son ensemble il y a quelques semaines. Jérôme Galichet, vous êtes notre correspondant à Neuchâtel et ce refus est assez étonnant pour plusieurs raisons.
Oui, c'est plutôt surprenant parce que la demande d'Yvan Perrin avait reçu un préavis positif de la part de son chef direct au sein de la police judiciaire neuchâteloise. C'est donc à un niveau bien plus élevé que le cas d'Yvan Perrin a été traité. C'est véritablement Jean Studer, conseiller d'État en charge du département de police et justice, qui a recommandé au Conseil d'État de ne pas accepter la demande du vice-président de l'UDC suisse.
Alors avant d'analyser pourquoi, est-ce que simplement dans la procédure, au fond, Jérôme, le Conseil d'État peut refuser d'accorder des congés sabbatiques?
Tout à fait, mais il ne peut généralement le faire que si ces congés ne sont pas conformes à l'intérêt général ou s'ils mettent en péril la bonne marche de l'administration. C'est inscrit noir sur blanc dans la loi sur la fonction publique neuchâteloise. Or, Yvan Perrin travaille déjà à 50% et selon nos informations, aucune affaire majeure n'est en cours dans son service. Un service où les effectifs sont suffisants. Enfin, concernant le critère de l'intérêt général, Yvan Perrin estime que la politique reste, aux dernières nouvelles, une activité d'intérêt général.
On y vient du coup, décision forcément politique, ça saute aux yeux.
Effectivement, devant le succès de l'UDC dans les sondages et la popularité certaine d'Yvan Perrin, d'aucuns auraient tout intérêt à lui mettre des bâtons dans les roues. Mais joint tout à l'heure, Jean Studer réfute toute décision politique. Selon le conseiller d'État socialiste, l'organisation d'une campagne électorale ne justifie pas un congé sabbatique de 6 mois.
Jérôme Galichet, en direct de notre studio de Neuchâtel, je vous remercie. Il est 18h33, très exactement. Vous écoutez Forum et nous, on ouvre avec vous, Romain Rosang, notre journal des sports. On commence avec du football, puisque Neuchâtel Xamax s'est donné un peu d'air cet après-midi en Super League.
Les Neuchâtelois ont réalisé une bonne opération en s'imposant 2-1 à la Maladière face à Lucerne. Pascal Turner, vous avez suivi cette partie. Ça doit être le soulagement dans le camp xamaxien.
Ouais, Neuchâtel Xamax qui a pris trois points aujourd'hui et puis on va dire c'est tout ce qu'on retiendra d'un match assez moyen, trois points qui permettent, vous l'avez dit, aux Neuchâtelois de quitter leur place de barragiste. Ils ont eu le mérite de redresser aussi une situation qui était mal emmanchée parce que Lucerne avait ouvert la marque dès la 7e minute sur un coup franc tiré directement de la gauche par Michel Rengli. En début de match, les visiteurs ont d'ailleurs dominé le jeu. À la 15e minute par exemple, Daniel Gigax adressait un centre-tir sur la latte du but de Jean-François Bédénic, mais ensuite Xamax a retrouvé progressivement une certaine Benjouri. Et à la 36e minute, Marcos Gelabert adressait un long ballon de contre en direction de Nuzzolo. Le capitaine neuchâtelois affrontait le gardien de Zibung qui repoussait le ballon, mais Federico Almeyrares le récupérait et égalisait. Xamax dominait ensuite la deuxième mi-temps et Almeyrares encore lui réalisait le doublé à la 71e minute grâce à un superbe coup franc des 22 mètres. Lucerne poussait en fin de rencontre, mais sans vraiment se montrer dangereux pour les neuchâtelois. Il a fallu aller chercher aussi cette victoire dans un contexte particulier. Écoutez le défenseur Frédéric Page.
Toute la semaine, elle était un peu, je dirais, un peu spéciale. Hein. C'est pour ça, je pense que l'équipe a montré qu'elle a du caractère aujourd'hui, parce qu'à la base, à la fin, c'est toujours la performance sur le terrain qui sera décisive. Et aujourd'hui, ça l'était.
Ouais, une semaine spéciale, allusion à la reprise du club, presque officielle par des repreneurs venus de Tchétchénie. Avouez que c'est un peu spécial tout de même.
Et sur les autres pelouses de Super League, Bâle a concédé le nul 2 partout face à Grasshopper et Thun-et-Saint-Gall ont fait match nul 0-0. Hier, Sion s'était incliné 2-0 à Tourbillon face à Zurich. Au classement, Bâle ne possède plus que 3 points d'avance sur Zurich. Sion reste 4e, Xamax passe 8e et quitte donc la place de barragiste. Et puis en Challenge League, Servette a battu Schaffhouse 6-2 cet après-midi et Bienne a perdu 2-0 à domicile face à Locarno.
Et Romain, le football suisse est par ailleurs indirectement touché par la crise que traverse actuellement la Côte d'Ivoire.
Plusieurs joueurs ivoiriens évoluent en effet dans des clubs helvétiques, une période difficile à vivre pour eux, souvent éloignés de leur famille et spectateurs évidemment impuissants des émeutes qui secouent leur pays. C'est le cas notamment du milieu de terrain du FC Bâle, Gilles Yapiyapo. Contrairement à certains de ses compatriotes qui préfèrent ne pas s'exprimer, le Rennais a accepté de parler de sa situation.
Elle est dure à vivre, à suivre de l'extérieur aussi. On a beaucoup de connaissances, on a la famille là-bas, on a des biens. On a des investissements là-bas et vraiment voir son pays en train d'être détruit comme ça, voir des gens mourir, des gens être tués, assassinés, massacrés, humainement c'est difficile.
Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant que joueur de football?
Je pense qu'il y a beaucoup d'humains comme moi, des personnes comme moi qui essaient de lever la voix, qui essaient de manifester. Mais malheureusement, devant cette situation-là, il n'y a pas d'humain qui puisse agir. Je ne peux que recommander à tous les Ivoiriens de se mettre ensemble et de prier Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu, à mon avis, qui puisse régler définitivement cette crise-là en Côte d'Ivoire.
Est-ce que vous avez pensé faire venir des membres de votre famille en Suisse de façon à les éloigner un moment du pays?
Bien sûr, mais on sait que l'administration suisse n'est pas très facile à ce niveau-là. C'est difficile de faire venir tout le monde, donc on a pu évacuer une partie, pas loin, mais on a tout le noyau quand même sur place.
Vous avez reçu de la compréhension de la part du FC de Bâle dans cette période difficile?
Bien sûr, j'ai la chance d'avoir des dirigeants compréhensifs qui sont très humains et ils m'ont beaucoup soutenu dans cette période. Et franchement, je veux profiter de l'antenne pour les remercier.
Gilles Yapiyapo répondait à Hervé Boursier.
Et on passe au tennis d'abord, au sujet de l'équipe de Suisse de Fed Cup qui retrouvera en 2012 sa place parmi les 16 meilleures nations de la planète.
Oui, après deux saisons passées en zone Europe-Afrique, les Suissesses ont obtenu leur promotion aujourd'hui sur la terre battue de Lugano face à la Suède. C'est la Baloise Patty Schnider qui a apporté le troisième point, synonyme de victoire, en battant Johanna Larsson 3-6, 7-5, 6-2. Et puis Rafael Nadal a remporté cet après-midi le Masters 1000 de Monte Carlo. En finale, l'Espagnol a battu son compatriote David Ferrer, 6-4, 7-5. C'est son 7e titre consécutif sur la terre battue monégasque, un record.
Oui, c'est impressionnant. Et en Formule 1, Sébastien Vettel a trouvé son maître à Shanghai.
Lauréat des deux premières courses de la saison et auteur de la pole position hier, le champion du monde en titre a pris la deuxième place du Grand Prix de Chine. En tête, à 4 tours de l'arrivée, l'Allemand a été devancé par le Britannique Lewis Hamilton sur McLaren Mercedes. Son coéquipier chez Red Bull, Mark Webber, complète lui le podium. Le Vaudois Sébastien Buemi s'est classé 14e d'une épreuve spectaculaire. Mike Perez.
Afin de rendre la Formule 1 plus intéressante, de promouvoir les dépassements, les idées n'ont pas manqué ces dernières années. Aileron arrière mobile, pneumatique à l'usure très prononcée, les nouvelles mesures adoptées cette année sont finalement peut-être les bonnes. 6 leaders différents au cours de ce Grand Prix de Chine, des dépassements en cascade, un suspense de tous les instants. Le spectacle a été servi aujourd'hui sur le circuit de Shanghai. avec en prime un résultat qui relance complètement la saison. Après les deux premières courses, Sebastian Vettel avait tellement assommé la concurrence que l'issue du championnat semblait connue. Or, Lewis Hamilton a démontré que les Red Bull n'étaient pas invincibles, qu'une stratégie agressive pouvait compenser un manque de performance. Vettel est certes toujours largement en tête du classement des pilotes, mais sans l'autorité qui était la sienne ces dernières semaines.
Sébastien Vettel compte désormais 21 points d'avance sur Lewis Hamilton et 30 sur Jenson Button. Prochain Grand Prix le 8 mai en Turquie. En cyclisme, Philippe Gilbert a remporté pour la deuxième fois de sa carrière l'Amstel Gold Race. Le Belge s'est dégagé dans la montée finale du Courberg pour devancer l'Espagnol Joachim Rodriguez et l'Australien Simon Gerrans.
Et en athlétisme, Victor Rötlin a manqué son objectif aujourd'hui lors du marathon de Londres.
Le Valdien qui entendait descendre sous la barre des 2h10 a dû se contenter de la 11e place avec un temps de 2h12 et 43 secondes. La victoire est revenue au Kenyan Emmanuel Mutai en 2h04.38, soit le quatrième chrono de l'histoire. Et puis à Zurich, la Zougoise Patricia Morselli et le Valaisan Tarsis Sensé ont été sacrés champions de Suisse du marathon.
Et puis on revient sur cette défaite de Chenois en finale du championnat de Suisse de volleyball. L'avenir sportif du club du coup est en question.
Battue 3-2 par Neffels au terme d'une finale à suspense, l'équipe genevoise risque en effet de connaître plusieurs changements durant la pause estivale. À commencer par son entraîneur-joueur, Dutan Tchouko, dont le contrat n'a pour l'heure pas été renouvelé. Pour Michel Giorgiou, le président de Chenois, tout est une question d'argent.
Oui, ça joue d'abord sur le plan financier, c'est-à-dire au moment où je connais les possibilités financières que j'ai, je sais quel type d'équipe je peux construire. À partir de là... Je ne veux pas construire une équipe avec Tchouko où on joue avec une équipe de seconde zone, ça n'a pas de sens. Or chaque année c'est la bagarre pour clore jusqu'à fin mai le budget de l'année d'avant et juin, juillet, août pour construire le budget de l'année d'après. Donc on a besoin d'aide, il faut que les gens nous aident, que l'État, la ville, les communes, les sponsors, les mécènes, vous, les médias, il faut qu'on ait cette possibilité de pouvoir faire 50% de volets, 50% de recherche d'argent dans l'année. Aujourd'hui, c'est déséquilibré, 80% de notre temps on pense à chercher des sous et 20% de temps on passe à penser volleyball. Tchouko, oui, moi je signe demain avec lui parce qu'il est formidable. S'il est prêt à repartir et que je peux lui offrir une belle équipe, ça sera oui, bien entendu.
Des propos recueillis par Alain Thévaux.
Merci Romain Rosang, c'est vous qui nous présentiez le journal des sports de Forum. Il est 18h41, l'heure de retrouver Philippe Reva en direct d'Unimail pour ce forum spécial consacré aux élections en ville de Genève principalement. À vous Philippe.
Oui Nathalie Ducommun, on est en direct ici du centre électoral du canton de Genève, de la ville en particulier ici à Unimail. On attendait beaucoup de cette élection ici au conseil administratif de la ville. La droite est allée vers une défaite annoncée, chronique d'un échec annoncé pourrait-on dire, puisque manifestement selon les projections, la gauche garde sa majorité. Il y a le siège de Pierre Maudet qui était en danger, croyait-on, qui semble pouvoir être maintenu, le radical Pierre Maudet qui doit nous rejoindre dès qu'il sera rassuré sur son sort à ce niveau-là. Nous avons plusieurs invités ici pour tirer des enseignements peut-être au niveau suisse, généraux pour la politique suisse de ce qui s'est passé aujourd'hui à Genève, parce qu'on sait qu'il y avait notamment cette alliance entre les libéraux et l'UDC, une liste commune qui a beaucoup fait parler au sein de l'entente de droite. On va voir si c'était une expérience qui devrait être rééditée à l'avenir pour le bien du centre droit, qui s'est plusieurs invités avec nous. Michel Chevrolet, candidat au conseil administratif pour le PDC en ville de Genève, candidat qui a échoué aujourd'hui. Bonsoir Michel Chevrolet.
Bonsoir.
Florence Krack-Babel, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous aussi, vous étiez candidate libérale, c'est vous qui étiez sur cette liste UDC avec Éric Bertina. Échec pour vous aussi. Merci d'être avec nous.
Merci à vous. D'abord, j'aimerais rappeler une chose, c'est que il n'y a pas tellement de leçons à tirer d'une instance à une autre. Le conseil municipal de la ville de Genève est sous haute main de l'alternative depuis 20 ans. Il me semble que pour le conseil fédéral, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, nous tirons les leçons que nous devons tirer dans les forces en présence.
Tout ce qui devra être tiré va être tiré en matière de leçons politiques ici en direct d'Unimail. Christian Luchère est avec nous également, conseiller national libéral. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous tentez-vous de devenir conseiller aux États? Vous allez peut-être tenter d'ici l'automne. On va voir ce que, pour vous, votre destin en particulier, notamment l'alliance avec l'UDC, parce que ça a influé sur votre destin politique. Et Fulvio Pelli, le président du Parti libéral radical suisse, est avec nous. Bonsoir Fulvio Pelli.
Bonsoir.
Peut-être, je ne vais pas dire à tout seigneur tout honneur, moi à tout président tout honneur, Fulvio Pelli, peut-être une première réaction pour vous. Vous avez regardé ce qui s'est passé à Genève, ça vous a inspiré un commentaire, une conclusion?
Bon, ça s'est passé. Ce qu'on pensait devait se passer, c'est que M. Maudet sera confirmé dans son siège. Et je pense qu'on dramatise beaucoup, mais le résultat de cette élection est celui-ci.
On a vu cette alliance UDC, Parti libéral, Fulvio Pelli, en tant que président du Parti suisse, vous donnez votre accord, votre bénédiction, ça ne s'est pas très bien passé.
Non, ce n'est pas une question de bénédiction, je ne suis pas un monseigneur. Tout simplement, j'ai pris acte de ce qui s'est passé, on a fait une analyse avec les deux présidents cantonaux du Parti libéral et du Parti radical genevois. L'analyse nous a porté à dire « Monsieur Maudet sera confirmé » et c'est ce qui s'est passé, donc je suis content si les projections se confirment. On a obtenu le minimum qu'on pouvait obtenir dans une ville qui est une ville de gauche.
Ouais, Florence Kraft-Babel, ça vous fait réagir, ça?
Écoutez, le but n'était pas d'obtenir le minimum, précisément. Alors, il y a certains présidents de parti, qui pensent que la ville de Genève n'est pas un enjeu, que c'est une ville comme une autre. Alors, je m'étonne que quelqu'un qui est au Conseil national puisse penser que la ville de Genève, qui vraiment occupe une place fondamentale pour la diplomatie suisse, ne soit pas un enjeu. Ce que nous aimerions, c'est pouvoir équilibrer les majorités du national avec celles de la ville de Genève. Cela me paraît quand même... C'est ça le service minimum, Monsieur Pelli.
Fulvio Pelli,
moi, je n'entre pas en polémique avec Madame Kraft-Babel. J'ai tout simplement dit l'analyse qu'on a fait avant les élections. D'obtenir deux sièges était presque impossible. Tout le monde le disait. On a essayé avec deux candidatures. Je pense que c'était juste. Mais c'est clair que les sortants ont toujours un avantage. Donc, je pense qu'il faut regarder en avant. Si un jour Genève réussira à se libérer de cette présence très importante de la gauche, très bien, mais ce ne sera pas dans une élection communale comme celle qui s'est passée cette fois.
Michel Chevrolet est avec nous, démocrate chrétien. Quelle est votre position, vous, par rapport à ce qu'il faut faire pour gagner le centre droit en Suisse en une année électorale ? UDC, centre droit uniquement, quels enseignements vous tirez ?
Ce que je constate, c'est que nous avons aujourd'hui une élection majoritaire. Il y a Bloc, d'un côté, qui a très bien marché, on le savait. S'ils avaient présenté 5 candidats, et même 6 ou 8, ils étaient tous élus sans aucun problème. Et puis de l'autre côté, on avait une droite totalement divisée. Alors évidemment, il faut qu'on se repose la question sur, tout d'abord, est-ce que lorsqu'on fait une plateforme électorale de droite, est-ce que c'est vraiment un échange de valeurs ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut heurter notre conscience au point même de devoir être des perdants à chaque fois ? Eh bien ça, c'est la première question qu'il faudra se poser. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire les choses juste comme elles sont. On oublie de le dire, la majorité de ce conseil municipal est à 41 contre 39 à droite. Alors qu'on dise que le MCG est de gauche, de droite, moi ce que je constate quand j'analyse Smart Vote, c'est que les candidats aujourd'hui du MCG sont des gens conservateurs et plus à droite que Christian Luchaire. Donc c'est vous dire.
Est-ce possible? Donc, Christian Luchaire pensait qu'il y avait le mur à votre droite.
Mais oui.
Alors, si vous permettez.
Plus
Luchaire
à droite, il y a le mur. Alors,
voilà. Je veux dire. Christian Luchaire, vous aimeriez être candidat unique de la droite, y compris UDC. En automne. Là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas faramineux, le résultat de cette première ébauche d'alliance UDC libérale.
En l'occurrence, ça s'est passé au niveau communal. Je crois que Fulvio Pelli a parfaitement raison de dire qu'on ne peut pas faire une comparaison entre ce qui se passe dans une commune comme Genève, dans un canton comme Genève et au niveau de la Confédération. Les choses se passent évidemment très différemment. Nous avons un tissu électoral très particulier en ville de Genève. Qui fait que, je crois qu'on peut le dire ce soir, si la gauche avait présenté 5 personnes, ils auraient passé 5 personnes, puisque même M. Maudet, qui apparemment est le cinquième élu, est à environ 6000 voix du dernier de gauche. Donc l'équation, elle est relativement simple. Moi, je félicite Florence pour son résultat. Florence Kraft-Babel, le résultat est déjà admirable par rapport à cet électorat de gauche. Et puis la grande victoire, effectivement, elle a eu lieu il y a 4 semaines. Il y a un parlement communal qui est beaucoup plus à droite que ce qu'on pouvait attendre par rapport à notre électorat de gauche. Mais avec le système actuel d'élection pour l'exécutif, malheureusement, le combat était pratiquement perdu d'avance. Et on a presque l'impression, finalement, que la gauche a choisi son cinquième.
Un autre candidat est venu, oui, a choisi son... Ça, c'est du pic pour Pierre Maudet, ça. Vous voulez dire que c'est le candidat de la gauche, pratiquement de gauche?
Non, c'est pas le candidat de la gauche, mais je crois que ce n'est pas trahir un secret de dire que Pierre Maudet est plus au centre que Florence Craft-Babel. Et effectivement, on a l'impression que la gauche, évidemment sous réserve de vérification ultérieure, a voulu faire passer le candidat qui lui correspondait le plus. Mais attention, il ne s'agit pas du tout d'une pique contre Pierre Maudet. Il a fait 4 ans absolument extraordinaires face à cette majorité de gauche. Et il a aussi également eu la prime du sortant.
Philippe Morel nous a rejoint, député démocrate chrétien. Philippe Morel, vous répondez quoi aux libéraux radicaux qui nous disent ce soir, non seulement c'était bien d'essayer l'alliance avec l'UDC, mais il faudra aller plus loin, faire une grande alliance qui regroupe tout le monde?
Écoutez, nous avons ce soir des partis de gauche qui sont unis, qui ont fait bloc et qui ont démontré que le bloc était efficace. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le centre-droite. Et je dois dire qu'il faut se regrouper au niveau du centre-droite. Je félicite aussi Pierre Maudet. Je regrette que même Craft-Babel n'ait pas été élu. Je pense qu'il faut renforcer le centre-droite et que le centre-droite a toute sa valeur, qui représente certainement la majorité de cet électorat. Je pense que nous avons beaucoup plus d'électeurs potentiels que nous avons actuellement d'électeurs réels. Il faut qu'on ait des idées communes, des traits communs et qu'on définisse une politique du centre-droite. Et je pense que c'est là que se situera l'intérêt de la population et des citoyens genevois.
Je reformule la question, Philippe Morel, alliance avec l'UDC pour l'avenir, les prochaines échéances, oui ou non en tant que PDC?
Actuellement, nous sommes dans une situation où nous devons dire non. Nous devons avoir une identité du centre-droit. Le centre-droit ne comprend pas actuellement l'UDC. Ceci dit, nous avons des intérêts communs. Nous avons des vues qui sont communes sur certains aspects de Genève. Et je pense qu'il ne faut pas les exclure.
Fulvio Pelli, vous êtes toujours avec nous, président des libéraux radicaux suisses. Aujourd'hui, dans la presse alémanique, on lisait Urs Schwaller, le chef du groupe PDC au Chambre fédérale, qui vous dit, qui vous somme en quelque sorte, de choisir. Il dit les libéraux radicaux doivent choisir soit le centre-droit, soit s'allier avec l'UDC. Vous avez envie de lui répondre ce soir?
Bon, nous n'allons pas nous allier avec l'UDC au niveau fédéral. On a décidé la ligne de principe qu'on ne fait pas des alliances avec aucun des grands partis qui sont au gouvernement, dont aussi avec l'UDC et aussi avec le PDC.
Les alliances se font au niveau cantonal, Fulvio Pelli.
Bon, mais on parle d'une commune, écoutez. On parle d'une commune et on parle d'une offre de l'UDC de mettre une candidate libérale sur sa liste. C'est tout autre chose de ce qui se passe à Berne. À Berne, nous allons nous battre avec nos positions libérales radicales et pas avec une position de centre à la Schwaller. Le problème avec le PDC, c'est qu'il se déplace toujours plus à gauche, à Berne. Et alors, nous ne sommes pas prêts à faire ce pas. Alors, c'est bien si on peut collaborer ensemble, mais M. Schwaller, c'est le premier que quand on veut collaborer, il n'est jamais d'accord. Madame Hubert, notre chef de groupe, attend depuis 4 mois une prise de contact de M. Schwaller pour dessiner la politique sur certains points. Et puis il vient le dimanche prendre ses positions. Moi, je sais qu'il y a une politique des faits et une politique d'image. Cela appartient à la politique d'image. Ce qui fait M. Schwaller, s'il croit que c'est bon de le faire, il le fera en tout cas sans me demander la permission. Mais on ne répond pas à des questions de ce type en interview radiophonique sur une élection de la ville de Genève.
Et la ville de Genève, centre de la diplomatie mondiale, nous disait Florence Craft-Babel. En tous les cas, Genève qui élit son exécutif aujourd'hui. Puis l'un des nouveaux élus, on peut dire ça. Pierre Maudet, vous êtes élu, c'est bon?
On attendra le dépouillement définitif et les résultats demain matin, mais il semblerait que j'ai bien dépassé les 33%, comme ce que j'espérais. Et puis que les bulletins sans nom de liste qui arrivent après coup, qui entrent ensuite dans le décompte, dans lesquels j'ai été massivement rajouté, permettront de largement passer l'épaule, semble-t-il.
On avait deviné avoir l'ombre de sourire sur votre visage, Pierre Maudet. Vous restez avec nous puisque Sylvie Belzer nous annonce les tout derniers pointages et tout derniers résultats de cette élection en ville de Genève.
Oui, des nouveaux résultats qui viennent de tomber. 9 locaux dépouillés sur 16 actuellement. Et donc un seul grand changement, c'est justement le fait que Pierre Maudet passe au-dessus du quorum. C'est pratiquement acquis désormais, il faudra attendre le dépouillement définitif, mais c'est la grande nouvelle à 18h50. Pour le reste, c'est pratiquement inchangé. En première position, Samy Canaan, socialiste. En deux, Sandrine Salerno, socialiste également. Là, ça change. En 3, Esther Alder, la verte. En 4, Rémi Pagani. Et on vient de le saluer, l'arrivée de Pierre Maudet, qui serait élu en 5e position, radical sortant.
Pierre Maudet, on a entendu quelques-uns dire ouvertement, d'autres avec un peu d'ironie. Vous étiez peut-être le candidat de la gauche, du moins, effectivement, forcément, des gens ont bien dû voter pour vous, et notamment les gens de gauche. Vous plaisez particulièrement à la gauche. Vous aimez cette étiquette?
Il faudra d'abord la vérifier. Dans les chiffres, je constate que je suis le candidat du PLR et que je suis soutenu par un parti extraordinairement homogène, extrêmement peu biffé au sein de mon parti, ce qui est une bonne nouvelle.
Le PLR,
l'étiquette sous laquelle on s'est présenté le 13 mars et sous laquelle je me représentais aujourd'hui, extrêmement peu de biffage, c'est une très bonne nouvelle. Ça montre l'homogénéité du parti derrière moi. La deuxième bonne nouvelle, je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a 80 à 90% des bulletins sans nom de liste qui comportent mon nom, donc une capacité visiblement confirmée depuis le conseil municipal d'aller tirer des voix
à gauche
un peu partout. Et puis, semble-t-il, passablement de voix faites au MCG également, à l'UDC, à gauche.
Pourquoi pas
on pourquoi les prend pas toutes. Les voix n'ont pas d'odeur, voyez-vous. Et je considère dans une élection majoritaire, c'est ce que certains n'ont peut-être pas compris, c'est que c'est la personne qui compte. On a beaucoup parlé des alliances contre nature, dans la nature et autres. C'est finalement dans les scrutins majoritaires. Et je souhaite à Christian Luchaire de l'éprouver, lui, cet automne. Le scrutin majoritaire, c'est quand même extraordinaire. La personne qui arrive à focaliser sur elle des suffrages.
Pierre Maudet, juste avant de passer la parole à notre autre débatteur, on parle aussi de l'alliance avec l'UDC. On a pu craindre à un moment donné pour votre place du côté de vos amis politiques, parce que Florence Craft-Babel, la libérale, était sur la liste UDC, cette ébauche d'alliance avec l'UDC. Quelle est votre position politique sur ce genre d'alliance aujourd'hui?
Écoutez, je l'ai vécu pendant ces 5 semaines de campagne, qui était une campagne extraordinairement difficile, parce que notamment dans notre électorat, c'était difficile de faire passer un message de traçabilité ou de lisibilité, de capacité de comprendre ce qu'on défendait, avec qui on a envie de travailler et sur quelle base. Donc je pense que là, on va faire l'analyse et on procédera à quelques ajustements sans doute dans les jours à venir. Mais
ça
véritablement,
veut dire quoi exactement? Parce qu'on joue sur les mots là. Vous dites que
on
comprend pas.
On ne joue pas sur les mots. On dit simplement que pendant 5 semaines, j'avais des adversaires à gauche, clairement désignés. J'avais des adversaires à droite, voire très à droite. Et puis j'avais le sentiment, et c'était la population qui me l'a reflété dans la campagne de terrain que j'ai menée avec mon équipe, que les gens n'y retrouvaient plus leur petit. Et ça se voit dans les chiffres, la mobilisation, notamment dans les partis dits bourgeois,
les quartiers.
Était plus difficile à concrétiser.
Christian Luchaire, vous entendez, ça ne va pas dans le sens d'une alliance avec l'UDC, ce que nous dit Pierre Maudet.
Mais je crois que Fulvio Pelli vient de vous répondre à ce sujet. Il n'est pas question d'avoir une alliance au niveau fédéral avec l'UDC. Cela étant, ce qui compte une fois de plus, on parle d'une alliance de gauche aujourd'hui, et peut-être que nous n'avons pas réussi à faire une alliance de droite et du centre-droit. Je constate que personne ne s'offusque du fait que certaines personnes modérées du Parti Socialiste s'allient avec des quasi-révolutionnaires comme Pierre Vanek et autres, alors que dès qu'à droite, on essaie d'élargir un tout petit peu le spectre de nos électeurs, alors on nous tombe dessus comme si on était une sorte de droite dure. C'est pas du tout le cas.
Mais Pierre Maudet vous dit, les électeurs ne comprennent pas.
Les électeurs ne comprennent pas quand on part divisé. On peut aussi imaginer des situations dans lesquelles quelqu'un renonce à partir précisément pour privilégier un succès d'une certaine mouvance politique.
Alors,
c'est des choses qui devront être discutées dans l'optique des élections fédérales du mois d'octobre. Comme l'a dit, et je répète ce qu'a dit Pelli, mon président, tout à l'heure, que je salue,
Fulvio,
je répète ce qu'il a dit. Ici, on est dans le cadre d'une élection communale avec un tissu électoral tout à fait particulier qui n'est pas forcément le même et qui donc n'emporte pas forcément les mêmes stratégies qu'au niveau fédéral.
Pierre Maudet, vous avez entendu ce plaidoyer de Christian Luchaire pour une alliance mathématique, en tout cas.
Il a dit à juste titre que l'électeur ne comprend pas lorsqu'on part divisé, et il comprend encore moins lorsqu'on rajoute de la division, lorsqu'on rajoute, on a parlé de bigamie hasardeuse dans cette opération. Il comprend encore moins lorsqu'on rajoute de la division, lorsqu'on est encore moins lisible. Ça, je pense, c'est quand même un des enseignements très clairs qu'on peut retirer de cette élection. Encore une fois, on va l'analyser dans le détail. Au-delà de ça, l'électeur ne comprend pas non plus pourquoi, à minuit moins 5, soit la veille du bouclement des listes, on provoque de nouvelles alliances, où on change un peu son fusil d'épaule. Et ça, je pense que ça nous a véritablement porté préjudice. C'est une leçon qu'on a déjà vécue en politique, qu'on revivra, j'espère, pas trop souvent. Mais véritablement, maintenant, il y a une clarification qui doit se faire à droite. Le PLR, de ce point de vue-là, est le parti pivot sur lequel on va construire la discussion sur des bases de valeurs, et je tiens à ce que le terme soit employé ce soir, des valeurs qui nous rassemblent et certaines qui nous divisent.
Mais vous risquez d'avoir un problème à très très court terme, Pierre Maudet, parce que le président des libéraux genevois, Cyril Hélène, lui maintient sa ligne. Il dit non seulement on a bien fait de s'allier avec l'UDC, mais en plus c'est l'avenir, il faut aller encore plus loin. Vous dites non, vous êtes dans le même parti dans quelques jours, il va falloir trouver une solution.
J'ai pas entendu le président, peut-être que vous lui faites dire ce qu'il a peut-être pas voulu dire.
Non, il est vraiment sur sa ligne.
Je pense en tout cas qu'avec le président des libéraux, avec le président des radicaux, avec les élus de ce parti, nous allons lire très attentivement les résultats. Et il y a des lectures qui vaudront leur pesant de cacahuètes.
Donc Christian Luchaire, quand on va lire les résultats, ça peut vouloir dire aussi on va se tirer dessus, ça va être la guerre.
C'est absolument hors de question.
Ce que vous dites,
Pierre Maudet n'a pas dit ça.
On peut tout à fait imaginer
ce qui va se passer.
Je comprends
que vous ayez envie de faire un débat polémique entre Pierre Maudet et moi. Je vous dis tout de suite, vous n'y arriverez pas. C'est absolument impossible. On l'a dit en
dissonance. Si vous permettez, Christian Luchaire, je redis autrement parce que vous m'avez peut-être mal compris. Cyril Hélène, le président des libéraux genevois, dit l'alliance avec l'UDC c'était une bonne décision, il faut continuer là-bas. Pierre Maudet dit non. Qui va gagner, simplement?
Une fois encore, Pierre Maudet et moi représentons ce qui sera dans quelques jours le PLR Genevois, et nous sommes là pour nous battre pour des valeurs. Ceux qui adhèrent à nos valeurs, il n'y a aucune raison qu'on ne les inclut pas dans nos élections. Le Pierre Modet l'a dit aussi, les électeurs n'ont pas d'odeur. Ce qui compte, c'est que nous faisions passer nos valeurs dans le public. Et si les gens ont les mêmes valeurs que nous et votent pour nous, eh bien, il n'y a aucune raison que nous les rejetions sous des prétextes politiciens.
En un mot, Michel Chevrolet, l'arbitre.
Non.
Allez-y, Michel Chevrolet.
Oui, ils sont très gentils, Christian Luchaire et Pierre Modet, mais je dois vous dire que moi qui ai observé de la campagne de l'intérieur en étant au Parti démocrate chrétien, j'ai vu effectivement un PLR très très divisé. Donc sur les questions de Florence Clark-Babel sur l'UDC et Pierre Modet 100, on a quand même fait une liste de traverse avec Pierre qui regroupait le PLR et le PDC.
Bon, l'avenir nous dira ce qu'il en est très exactement de ces polémiques ou pas. On tirera d'autres enseignements encore de ces élections aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, Pierre Modet, Florence Clark-Babel, Christian Luchaire, Michel Chevrolet. Fulvio Pelli, tout de suite c'est la météo avec Stéphanie Coller.
La journée se termine en douceur et la nuit devrait être généralement claire. Demain à l'aube, il y aura un faible risque de gel, mais il disparaîtra rapidement. Le temps sera ensoleillé toute la journée avec un développement de cumulus sur les crêtes dans le courant de l'après-midi. En pleine, les températures se situeront entre 3 et 5 degrés à l'aube. L'après-midi, il fera jusqu'à 19 degrés sur le plateau et jusqu'à 22 degrés en Valais. La limite du 0 degré se situera vers 2500 mètres. Mardi et mercredi, le temps sera égal, du soleil et la formation de cumulus en montagne en cours de journée. Les maxima se situeront vers 20 degrés sur le plateau et jusqu'à 24 degrés en Valais. Dès jeudi, un risque d'averse ou d'orage isolé sera présent l'après-midi sur les reliefs. Mais les journées seront surtout ensoleillées, avec des températures pouvant aller jusqu'à 24 degrés.
La météo avec alloboisson.ch 0848 444 111. Infotrafic RSR.
Un bouchon est toujours signalé sur l'A9 Vevey-Martigny entre Saint-Trifon et Bay en direction du Valais. Un accident en est la cause. En sens inverse, la même autoroute est ponctuellement surchargée entre Villeneuve et Glion.
Et c'est la fin de cette édition de Forum. Merci de l'avoir suivi. Merci à Fabrice Araldi, à la technique en particulier. Il est